Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast.
Coronavirus, conséquences des reports d'échéance sur les obligations de l'employeur en santé et sécurité. Le ministère du Travail, dans son question/réponse sur le coronavirus à l'attention des entreprises et des salariés actualisé au 8 avril, évoque les conséquences pour l'employeur sur ses obligations en matière de santé et de sécurité. Il apporte aussi des précisions supplémentaires relatives aux arrêts de travail de certains salariés et au bénévolat des salariés en chômage partiel. Effet des reports d'échéance sur la mise en œuvre des obligations de l'employeur. Principe, mise en œuvre différée. Une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que certains actes ou formalités qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars et le 24 juin 2020, date de fin de l'état d'urgence plus un mois, date qui pourrait être modifiée si l'état d'urgence est prolongé au-delà du 25 mai 2020, seront réputés avoir été faits à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne pourra pas excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois. Les employeurs ont ainsi la possibilité de différer la mise en œuvre de leurs obligations arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Exception, primo-obligation exclue. Le ministère du Travail précise que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars ne s'appliquent pas aux primo-obligations. Lorsqu'il n'existe pas de délai d'exécution à la réalisation d'un acte, d'une mesure, d'une obligation, d'une formalité, ceci n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance. En pratique, cela vise notamment les formations initiales de salariés qui conditionnent l'affectation à un poste de travail, les vérifications initiales qui conditionnent la mise en service d'un équipement de travail ou d'une installation, les demandes de certification ou d'accréditation avant d'exercer pour la première fois une activité soumise à une telle autorisation. Report du renouvellement des formations, des vérifications d'équipements et des certifications. Obligations visées. Le renouvellement de plusieurs obligations à la charge de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ainsi, l'employeur est réputé avoir satisfait à ses obligations si le renouvellement, qui arrivait normalement à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020, est réalisé avant le 24 août 2020, date qui pourrait être modifiée si l'état d'urgence est prolongé. Sont ici visés les renouvellements. Des formations obligatoires, exemple, formation à la prévention des risques liés à l'amiante, rayonnement ionisant, risque électrique. Des vérifications périodiques des équipements de travail, exemple, appareils et accessoires de levage, équipements émettant des rayonnements ionisants ou des installations, exemple, installation électrique, installation d'aération et d'assainissement auxquelles l'employeur doit procéder ou faire procéder. Des certifications, exemple, certification des organismes de formation, des entreprises réalisant des travaux particuliers liés à l'amiante, à l'hyperbarie, au rayonnement ionisant et des accréditations, exemple, accréditation des organismes certificateurs, des organismes réalisant le mesurage des VLEP. Planifier le report des obligations avec les organismes accrédités. Le ministère du Travail conseille aux employeurs qui ont recours à des organismes de formation ou de vérification et à des organismes certificateurs ou au COFRAC, de s'adresser au plus tôt à eux pour planifier ces reports. Cela permettra d'éviter une surcharge des organismes à l'issue de la période d'urgence sanitaire. Report du renouvellement des dosimètres mesurant les rayonnements ionisants. Dans les entreprises où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû au rayonnement ionisant d'origine naturelle ou artificielle, l'employeur doit, dans certaines circonstances, mettre en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée. En temps normal, l'employeur a une obligation de renouvellement des dosimètres. En l'état actuel, le ministère du Travail certifie que l'employeur qui aurait dû procéder à ce renouvellement entre le 12 mars et le 24 juin 2020, date susceptible d'être modifiée, sera réputé avoir satisfait à son obligation s'il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n'est plus couverte par la période protégée. En pratique, si l'employeur n'a pas reçu les dosimètres devant être attribués pour la prochaine période de port, les salariés continuent de porter les dosimètres attribués précédemment, quelle que soit la périodicité de port, 1 ou 3 mois. Voir le tableau. Précisions relatives aux personnes vulnérables, aux salariés cas contact ou contaminés. Arrêt de travail des salariés sur la liste des personnes fragiles. Les personnes dont l'état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 doivent impérativement rester à leur domicile. Le Haut Conseil de la Santé publique a établi la liste de ces personnes, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, etc. Le ministère du Travail rappelle qu'en l'absence de solution de télétravail, le salarié peut bénéficier d'un arrêt de travail via le téléservice de clar.amli.fr. L'arrêt de travail est alors établi par l'assurance maladie puis adressé à l'assuré, qui le transmet, le cas échéant, à son employeur. Lorsque la personne est considérée comme fragile mais n'est pas en affection de longue durée, elle s'adresse alors à son médecin traitant ou à un médecin de ville pour obtenir son arrêt de travail. L'arrêt peut être prescrit jusqu'au 15 avril, date de la fin du confinement, en l'état actuel, et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues. Les arrêts des personnes vulnérables ayant fait une demande validée via le téléservice arrivant à l'échéance avant cette date seront renouvelés automatiquement jusqu'à cette date sans démarche à faire de la part des assurés. Arrêt de travail éventuel du salarié vivant avec une personne fragile. Le salarié qui cohabite avec une personne vulnérable peut, en l'absence de solution de télétravail, solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s'il l'estime nécessaire. L'arrêt peut être prescrit jusqu'au 15 avril, date de la fin du confinement en l'état actuel, et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues. Télétravail ou arrêt de travail éventuel des salariés cas contact étroit. Lorsqu'un salarié de l'entreprise, qui ne développe aucun symptôme, a été en contact étroit avec une personne dont la contamination est confirmée, l'employeur doit envisager avec lui des modalités de télétravail. Si ce n'est pas possible, le salarié devra prendre contact avec son médecin traitant, qui pourra prescrire un arrêt de travail s'il l'estime nécessaire. Reprise du travail d'un salarié qui a été contaminé. Le ministère du Travail relève qu'un salarié contaminé peut reprendre son travail 8 jours après le début des symptômes et 48 heures après disparition de tout signe clinique. En principe, un avis médical n'est pas nécessaire pour un retour à l'emploi si les critères de guérison clinique sont bien remplis. Néanmoins, le question/réponse juge sage de laisser à l'appréciation du médecin la possibilité de rendre un tel avis. Entreprise participant à l'effort national de production, bénévolat sous condition des salariés en chômage partiel. Le ministère du Travail envisage l'hypothèse d'une entreprise qui souhaiterait participer à l'effort national de production pour répondre aux besoins de la nation en biens ou en services nécessaires, masques, blouses, gants, gel, transport ou hébergement du personnel soignant, etc., pour lutter contre l'épidémie ou répondre aux difficultés qu'elle pose. Dans ces circonstances particulières, le question/réponse indique que deux salariés de cette entreprise placés en chômage partiel peuvent participer à titre bénévole à condition que l'initiative parte d'un engagement volontaire ou spontané des salariés de travailler à titre bénévole. Il s'agisse d'une production temporaire distincte de la production habituelle de l'entreprise. Le caractère lucratif soit écarté si l'entreprise offre ladite production et n'en retire aucun bénéfice, elle pourrait même subir une perte du fait de l'utilisation gratuite de ses matières premières de base. La démarche s'inscrive dans un esprit de citoyenneté solidaire pour pallier le manque réel des biens ou services concernés. Pour éviter tout risque de litige, le ministère du Travail conseille aux entreprises de faire remplir aux salariés une attestation faisant état de leur adhésion à ce projet en tant que bénévole. L'important étant qu'ils reconnaissent que leur intervention ne s'inscrit pas le cadre d'une relation de subordination et qu'ils ne bénéficient pas de la protection du cadre du travail. L'organisateur de l'activité bénévole doit vérifier qu'il a les assurances nécessaires pour protéger les bénévoles en cas d'accident et doit faire respecter les consignes pour se préserver de l'épidémie, gestion barrière, bonne pratique métier, etc.
Accompagnez la gestion de votre capital humain avec les solutions Sage Business Cloud. En savoir plus sur sage.fr.